RCF.
Et à 18h10, ils sont tous autour de la table, même Manon, que nous retrouverons pour la météo. Voici le 18-19 régional, Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes accompagnés ce soir, on a parlé de météo il y a quelques instants. Qui dit météo dit Manon.
Tout à fait, Manon Bréval, notre stagiaire à la rédaction, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Avec nous en direct pour nous présenter la météo, ça sera à l'intérieur du journal régional de 18h30.
Qu'y a-t-il au programme? Je crois que dans le programme du mardi, il y a toujours Jean-François Boulanger.
Effectivement Jean-Pierre, je vous le voyais le chercher en studio. Non, il est avec nous par téléphone, mais la connexion est bien établie. Fabrice Girolet nous fait des signaux comme quoi tout est ok. On le retrouvera d'ici quelques instants. Évidemment, juste après, à 18h20, nos auditeurs ont pris le pli depuis cette rentrée de septembre 2023. Un maire qui vous parle, Jean-Pierre.
Anne Desveronnières, la maire de Pomacle, sera avec nous.
On partira également à la rencontre de Jacques Yves, qui est auteur d'un livre « Que lentement passent les heures ».
Oui, « Que lentement passent les heures », c'est un vers d'Apollinaire. Il s'est bien sûr inspiré d'Apollinaire pour, en tant que libraire, voyager à travers les livres dans la période 1910-1914. Il a été libraire à Place d'Erlon, à la librairie Guerlain. Il évoque aussi d'une certaine façon des rencontres et des souvenirs.
Et puis des initiatives que l'on présentera sur notre territoire du côté de Vitry-le-François, Eclectic Rock avec Elsa Elringer, chargée de communication à bord de scène de Vitry-le-François qui nous présentera cet événement. Et puis vous le savez également, le Festival des Solidarités revient de 17 novembre au 3 décembre. On aura l'occasion d'en parler sur les antennes de RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. La 26e édition du côté de Châlons-en-Champagne du Festisol 2023, on en parle dès ce soir avec Martine Coutier, présidente du collectif Cité en Champagne. Voilà pour le sommaire, Jean-Pierre.
En effet, merci. Et je crois tout de suite, je vous laisse avec notre chroniqueur du mardi. Il s'appelle Jean-François. Il n'est pas dans la boulangerie, mais c'est Jean-François Boulanger. C'est plus un jeu de mots, c'est un jeu de moto de sixième.
Ouais, Jean-Pierre, Jean-Pierre est fatigué. Il nous a confié avant cette émission qu'il n'avait pas fait sa sieste. Jean-François, bonjour.
Oui, et je suis en train de la faire, là, en direct.
Oui. Bah, écoutez, merci de me donner la parole. Et je pense que Jean-Pierre devra se racheter en faisant un pèlerinage à Chartres.
Et je ferai bien, en empruntant les pas
de
Charles Péguy.
Et ça tombe bien parce que ça va être le sujet du jour, Jean-François. Donc
tout
est lié.
Transition, voyez.
Puisque aujourd'hui, donc nos auditeurs l'ont compris, nous allons évoquer le pèlerinage étudiant de Chartres. S'il trouve sa place dans une émission consacrée aux mémoires chrétiennes, qui est le sujet de cette émission, hein, Jean-François Boulanger, c'est parce qu'il n'aurait jamais eu lieu s'il ne s'était pas inscrit dans la mémoire d'un pèlerinage antérieur, celui dont vous venez de parler, celui de Charles Péguy, qu'il a effectué en 1912.
Oui, effectivement, Péguy s'est rendu à deux reprises à pied à Chartres en 1912 et aussi en 1913. Il a trouvé la mort l'année suivante au début de la Première Guerre mondiale. Et donc, on a gardé le souvenir de son ou de ses pèlerinages en raison d'abord des traces littéraires qu'il a laissées, nous en avons parlé dans une autre émission, et aussi parce que sa femme, qui était pourtant agnostique et d'abord hostile au catholicisme, ainsi que ses collaborateurs et amis en ont perpétué le souvenir, en effectuant eux-mêmes ce pèlerinage. Et c'est ainsi qu'une série de micro-pèlerinages, si je puis dire, va constituer les chaînons qui vont permettre d'aller vers un grand pèlerinage collectif.
Et ce grand pèlerinage collectif, si on a bien tout suivi depuis l'introduction, ce sera donc le pèlerinage étudiant, Jean-François.
Absolument. Et à l'initiative de ce pèlerinage, il y a deux étudiants de la Sorbonne, Marie-Claude Féninger et Jean Aubonnet. Et donc, en 1935, ces quelques étudiants décident de marcher vers Chartres dans les traces de Charles Péguy. L'année suivante, premier pèlerinage qui dure 3 jours et concerne une centaine d'étudiants, qui est confié à un aumônier général, l'abbé Basset, qui était vicaire de Saint-Étienne-du-Mont, donc dans le quartier latin. Ce pèlerinage se développe peu à peu autour du néo-primitif des étudiants de la Sorbonne. Et le dominicain Federbe va donner au pèlerinage des années 40 un dynamisme et une structure qui vont lui permettre de devenir le grand moment de l'année pour les groupes d'étudiants catholiques. Et en 1945, il rassemble déjà 4000 marcheurs. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, son organisation est confiée au Centre Richelieu, c'est-à-dire l'aumônerie des étudiants parisiens, créée en 1945, par l'abbé Charles, qui sera ensuite dirigé de 1959 à 1969 par un certain abbé Lustiger. Et on passe progressivement de 4000 participants à 12000 au début des années 60. Donc ce qu'on appelle à l'époque le pélé dans le jargon étudiant, donc va à ce moment-là être obligé de se scinder en plusieurs routes, parce qu'il y a trop de monde, si on peut dire, en séparant notamment les étudiants des facultés de celles des grandes écoles. Et tenez-vous bien, un étudiant sur quatre de Paris à l'époque, ils sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, fréquente ce pèlerinage. Un pèlerinage qui se développe dans un contexte de politique assez tendue avec la décolonisation qui a des échos dans ce milieu étudiant qui, rappelons-le, à Paris, accueille à cette époque-là des étudiants venant de l'ensemble de l'Empire colonial français.
En quelques mots, Jean-François, quelles conséquences ce contexte a-t-il sur le Pélé, justement ?
Alors, d'abord, en 1953, un ancien étudiant catholique, il s'appelle Robert Barra, qui a été résistant, rédacteur en chef adjoint de Témoignages chrétiens après la guerre, va inviter au pèlerinage des étudiants marocains nationalistes, qui ultérieurement seront des ministres, et aussi l'écrivain François Mauriac, qui a pris parti contre la destitution du sultan Mohamed Ben Youssef, le futur roi Mohamed V, qui avait été organisé à l'époque par le gouverneur général de l'Algérie, du Maroc. Et il est donc acclamé. Et dans un autre registre, il y a des pèlerins allemands qui viennent dès le lendemain de la guerre, et c'est ainsi que se tissent peu à peu des éléments qui vont permettre réconcilier les jeunes Français et les jeunes Allemands. Et la participation des jeunes Allemands a été encouragée très fortement par l'abbé Lustiger, donc le futur cardinal, qui prononçait parfois en allemand, à leur intention, une partie de l'homélie de la messe de la Passion.
Ne serait-on pas éloigné quelque part, Jean-François Boulanger, du but spirituel du pèlerinage ?
Non, pas totalement, parce que justement, parallèlement à cette politisation, le pèlerinage conserve sa bague d'origine. Il est le lieu d'innovation liturgique portée par les jeunes. Et donc, c'est toujours un apprentissage une fois adulte. Cependant, avec le milieu des années 60, s'ouvre une période de difficultés parce que les questions politiques, effectivement, deviennent très prédominantes. Au sein des universités, les catholiques ont un mal croissant à se faire une place, ainsi qu'à se retrouver, et le pèlerinage va entrer dans une phase de déclin relatif.
Vous avez évoqué le rôle joué dans l'organisation de ce pèlerinage par Mgr Lustiger. Devenu archevêque de Paris, ce dernier peut-il rester indifférent au déclin relatif du pèlerinage ?
Non, bien entendu, et vers 1990, il cherche deux aumôniers de relancer le pèlerinage, qui connaît un regain notamment au moment des JMJ, les JMJ de Paris en 1997. À ce moment-là, les effectifs du pèlerinage se stabilisent entre 2500 et 3500 pèlerins.
La formule du pèlerinage, désormais moins nombreux, a-t-elle évolué très rapidement, Jean-François ?
Elle va essayer d'évoluer, effectivement. On va mettre en place un pèlerinage qu'on va progressivement appeler le pèlerinage des 18-30 ans, des jeunes, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas que des étudiants, mais aussi des jeunes adultes, des jeunes professionnels. Mais en 2017, on décide de faire une pause parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de pèlerins, donc on le remplace par une marche nocturne vers la basilique du Sacré-Cœur. Donc, et l'année suivante, donc, on reprend, l'initiative dans ce domaine-là, on décide de relancer le pèlerinage. Malheureusement, ça ne marche pas très bien. Et en 2023, le pèlerinage est remplacé par un week-end des rameaux pour les 18-30 ans.
Ah bien justement, Jean-François Boulanger, à l'occasion de ce week-end des rameaux, on va quand même prendre le temps de nous donner le programme notamment.
Alors, le programme de ce pèlerinage des rameaux, c'est simplement le matin, on part de Saint-Germain-l'Auxerrois avec une messe. L'après-midi, on va partir vers Montmartre avec une montée en flambeau. Donc dans la soirée, veillée dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et le lendemain, il y a eu à la basilique de Montmartre, des laudes, et puis ensuite le pèlerinage part de Montmartre vers Saint-Denis, vers la basilique de Saint-Denis, avec à 14h30 la grande messe finale, à Saint-Denis. Donc vous voyez, le pèlerinage étudiant de Chartres a pris fin, mais d'autres pèlerinages existent toujours, on en reparlera dans d'autres émissions.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé et présenté ce pèlerinage étudiant, de nous avoir emmené du côté de Chartres aujourd'hui. On vous dit à très bientôt, Jean-François.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Jean-Pierre, je sais qu'à 18h20, c'est toujours un moment que vous appréciez particulièrement. C'est votre rendez-vous, quelque part.
Absolument, c'est un rendez-vous quotidien qui a lieu le midi, tous les midis.
Sur RCF Reims-Ardennes.
Sur RCF Reims-Ardennes, votre maire nous parle, un maire de la région de Reims ou des Ardennes.
Et notre maire, aujourd'hui, que l'on retrouve à 18h20, c'est Anne Desveronnière de Paumacle. L'entretien, Jean-Pierre, effectivement, c'est avec vous.
Anne Desveronnière, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Paumacle dans l'actualité, souvent. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter très généralement votre commune, le nombre d'habitants qui la composent ?
Bien sûr. Donc, nous sommes une commune de environ 500 habitants, on est 505 au dernier recensement. Nous avons la particularité d'être un village qui accueille aussi une zone industrielle. Donc, nous cohabitons entre les industries et les habitants. C'est vraiment la particularité du territoire parce que souvent dans un village, il est rare d'avoir une zone industrielle. Donc, c'est pourtant le cas sur Paumacle et on essaye d'avoir une grande transparence avec les industries quand il y a des interrogations des habitants sur un bruit, une odeur. On travaille en toute transparence pour pouvoir donner des informations.
Cette acclimatation se passe bien finalement au fond?
Oui, ça se passe bien parce qu'en fait, dès qu'on a une interrogation, on interroge les industries typiquement. Il y a eu un bruit qui était assez fort il y a quelques mois. On a demandé en fait à l'industrie de savoir ce que c'était. Elle nous a fait une explication qu'on a mise sur la page Facebook et puis ça a rassuré les gens en fait. À partir du moment où on dit ce qui se passe, c'était tout simplement un souci de réglage. Et du coup, vu qu'on a informé l'industrie, elle a pu régler sa situation et tout s'est bien passé.
Alors Anne Desveronnière, vous-même, vous êtes maire depuis combien de temps finalement à Paumacle ?
Alors je suis maire depuis 2018. Alors j'ai pris le mandat en cours, puisque le mandat de maire s'arrêtait en 2020. Mais l'ancienne équipe municipale a démissionné dans son intégralité. Et puis deux équipes se sont constituées en 2018 et les votes ont été en notre faveur. Donc moi j'avais identifié une personne comme étant le porteur de la liste, mais finalement cette personne ne voulait pas être maire et j'ai présenté ma candidature.
C'est vrai que c'était peut-être déjà dans votre ADN, vous étiez peut-être déjà conseillère municipale, vous étiez engagée sans doute dans des associations, dans des groupes, etc.
Alors dans des groupes, dans des associations, oui. Alors je vous avoue que je n'avais jamais fait partie d'un conseil municipal. Donc ça a été la grande surprise en fait pour les habitants qui ont dit bah tiens en fait elle n'y connaît rien. Mais pourquoi je me suis dit que j'allais me lancer? Je me suis dit je sais demander de l'aide, je sais dire je ne sais pas, je sais dire est-ce que vous pouvez m'aider? Et je pense que c'est ça qui était important parce que quand je suis arrivée, effectivement, je ne connaissais pas les interlocuteurs de la mairie parce que en tant que particulier, on n'a pas du tout les mêmes interlocuteurs. Mais assez facilement, les autres maires m'ont beaucoup aidée. Le maire de Bazancourt, le maire de Vitry-les-Reims. Voilà, je les ai appelés quand je ne savais pas. Et ils m'ont dit, tiens, contacte telle personne. Et du coup, le message que je voudrais passer, c'est que même si un jour vous n'avez pas fait une activité, n'hésitez pas à y aller. Parce que quand on arrive avec un cœur neuf et une vision neuve, une vision différente, vous ne vous arrêterez pas au premier non. Parce que souvent, on va vous dire que les choses ne sont pas possibles. Finalement, quand on n'y connaît rien, mais qu'on a envie de bien faire, je pense qu'on peut arriver à beaucoup.
Vous êtes guidé aussi, certainement, nul doute, par la passion. Alors, comment peut-on caractériser votre commune? Quel type d'habitants? Des personnes plus âgées? Il y a quelques jeunes? Il y a des gens qui s'installent à Paumacle?
Oui, il y a eu pas mal d'installations ces dernières années, parce que on a eu des terrains qui se vendaient, donc des jeunes familles qui sont arrivées. On a aussi des personnes qui sont un peu plus âgées. Je dirais qu'on a un tiers de jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes sur le village aujourd'hui. Ensuite, des personnes qui sont en âge de 20 à 60, 65 ans, et puis des personnes qui sont un peu plus âgées, pour à peu près un tiers également.
Vous l'avez déjà évoqué, Anne Desveronnière, mais j'y reviens un peu, car il y a des villages aujourd'hui, des communes, qui ont du mal à trouver des maires, des personnes qui vont s'investir, parce que ils se disent qu'il y a beaucoup de responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, un maire a beaucoup de responsabilités, finalement.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On est responsable de tout, en fait, de tout ce qui arrive sur une commune. Et typiquement, dernièrement, j'étais étonnée parce que je me disais, je discutais avec des responsables de voirie qui me disaient, mais Anne, quand des personnes font des travaux sur le devant de leur maison, qui n'ont pas fait de demande de travaux, c'est la responsabilité du maire. Je m'attendais, vous plaisantez. Et la personne m'a dit, mais oui, en fait, vous devez voir tout ce qui se fait sur le village. Et c'est pour vous dire l'étendue de ce qu'on doit faire en tant que maire. On doit vérifier que tout le monde est en sécurité. Quand il y a du vent, je vais faire le tour du village avec les adjoints pour voir si un arbre est tombé, sécuriser en permanence en fait tout ce qui se passe. Donc, alors, on est aidé hein, pour ça.
Vous êtes aidé. D'ailleurs, justement, il y a le maire, il y a la commune, il y a Pomacle, mais il y a aussi les communautés de communes et vous particulièrement le Grand Reims. Mais vous êtes actrice aussi du Grand Reims.
Oui, alors effectivement, depuis 2020, la présidente du Grand Reims m'a proposé d'être vice-présidente du Grand Reims. Donc j'étais très fière parce que c'est une femme pour laquelle j'ai une grande admiration, parce qu'elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit et elle est courageuse. C'est-à-dire que c'est une courageuse politique. Puisque c'était elle, j'ai dit bien sûr, je viens travailler avec toi sur la mission de l'environnement. Et là, on a encore à nouveau beaucoup d'aide de la part des services parce que un élu, il va prendre des décisions en fonction de ce que les services vont lui donner comme information et aussi en fonction de ce qu'il entend, de ce qui se fait. Et les gens nous alertent beaucoup, me disent, bah, tiens, sur l'environnement, on a vu qu'il y avait telle solution qui existait. Regarde, ça peut être intéressant pour le Grand Reims. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'informations et beaucoup de possibilités aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une date historique. Aujourd'hui, parce que nous avons annoncé ce matin avec le Grand Reims une nouvelle offre sur les mobilités. Donc ça veut dire que chaque personne qui habite même en zone rurale aura une offre de transport bien plus importante que ce qu'on avait auparavant, et ça sur tout le Grand Reims.
C'est vrai que c'est important de connaître les projets. Des projets en cours que vous avez, ou ceux qui vont être mis en place à court terme, moyen terme, long terme. Vous avez certainement quelques idées, Anne Desveronnières.
Oui, alors les projets qu'on a menés cette année, c'est qu'on a refait les grandes voiries départementales. On a lutté contre les îlots de chaleur, et justement grâce aux informations que j'avais eues par le Grand Reims, je savais qu'on devait faire des trottoirs clairs pour lutter contre les îlots de chaleur, qu'on devait essayer d'intégrer l'eau au plus proche de là où elle tombe. Donc ça, c'était vraiment notre projet de cette année. Et puis, on a mis en place la loi LOM sur cette rue. Donc, la grande route qui va à Bazancourt et la grande route qui va à Reims. Donc, si vous passez par Pomacle, ne soyez pas étonnés par le marquage au sol. C'est un marquage qui nous invite à partager la route avec les vélos, avec les piétons, de apprennent à avoir cet espace pour nous tous, pour qu'on utilise aussi les mobilités actives pour nous rendre d'une commune à une autre. Vous avez aussi peut-être vu que nous éteignons la nuit, mais nous avons une solution qui peut intéresser d'autres maires, c'est qu'on a un système qui s'appelle J'allume ma rue, c'est-à-dire que pour 5 minutes, on peut allumer sa rue pour rentrer chez soi. Donc ça, c'est vraiment
super. Ah, c'est une bonne idée, ça.
Oui, c'est extraordinaire et c'est très facile d'utilisation.
Alors simplement pour terminer, parce que le temps passe très vite, Anne Desveronnières, on fera d'autres émissions si vous en êtes d'accord. Et d'ailleurs, vous nous donnerez des informations sur Pomacle. Mais maire et vie professionnelle, maire et vie familiale, c'est du travail quand même, c'est pas toujours simple.
Alors, effectivement, j'ai décidé de devenir maire en accord avec ma famille. Parce qu'on savait que c'était très prenant. Et mes enfants partaient en études supérieures peu après. Et m'ont dit, mais maman, vas-y, on sait que tu vas vouloir aider les gens. Et ça fait la fierté de mes enfants. Et j'étais très heureuse que mes enfants voient en quoi j'avais envie d'aider. En fait, le territoire, et ça, je trouve que c'était une bonne chose. Donc, ça se passe très bien, mais je pense qu'il faut le faire effectivement en accord avec sa famille.
Une dernière question, Anne Desveronnières, très rapide. Est-ce que vous êtes une mère heureuse?
Ah oui.
Une mère MIRE,
oui.
Hein?
Oh oui, tout à fait. Je suis une mère très heureuse parce que j'apprends tous les jours et que j'essaie de faire avancer mon territoire. Et ça, j'en suis heureuse, j'en suis très heureuse.
On aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver sur RCF. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt, au revoir.
À bientôt, Jean-Pierre. Au revoir.
Merci Jean-Pierre, toujours à la baguette pour interviewer les maires qui nous parlent, c'est tous les jours à 18h20 dans le magazine régional sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, tous les jours dès midi sur RCF France-Ardennes, Jean-Pierre.
Oui, dès midi, d'ailleurs demain, on repartira du côté de l'Aunois, de Gendin plutôt, avec François Garcia, le maire de Gendin.
Eh bien voilà, rendez-vous est pris, puis j'imagine qu'on aura plaisir à le retrouver dans le 18-19 régional, Jean-Pierre.
Absolument, aux alentours de 18h20, on retrouvera comme aujourd'hui un maire, et ce sera donc le maire de Gendin dans les fabuleuses crêtes pré-ardennaises.
La suite du programme, vous voulez
l'annoncer? La suite du programme, eh bien sûr, c'est le journal régional. Et avec qui, devinez, c'est un jeu. Vous allez gagner des places pour le salon des vins des indépendants qui a lieu ce week-end. Vous pouvez nous téléphoner.
Vous en avez à distribuer.
0326 57 77 63.
Non, c'est pas ça, Jean-Pierre, le numéro. C'est le 0326 77 53 53.
C'était pour pas avoir de coup de fil, Alexis.
Ah, très bien, pardon. Mais si on l'envoie chez, si on les envoie chez quelqu'un d'autre, Jean-Pierre, ça va pas aller. Mais on a des places à distribuer.
On a des places à distribuer. Il est 18h30 et le rendez-vous nous appelle l'actualité régionale.
Il est infernal. Les titres de ce mardi 7 novembre 2023 zooment sur le dispositif Ambition Éleveur lancé par la région Grand Est et la Chambre régionale d'agriculture pour soutenir la filière locale. Les conférences Altaïr signent leur retour à la Maison Saint-Sixte. La première de la saison est organisée le 24 novembre prochain. Présentation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le salon Agrimax, qui réunit chaque année au parc des expositions de Metz des professionnels de l'élevage et de l'agriculture du Grand Est, s'est achevé le 27 octobre dernier. À cette occasion, la région Grand Est et la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est ont annoncé le démarrage prochain du dispositif Ambition Éleveur. Objectif, soutenir la filière locale qui connaît une lente érosion. Maxime Charpentier, président de la Chambre régionale d'agriculture.
Déjà de se rendre compte qu'on a besoin d'éleveurs. Et aujourd'hui, on perd entre 3 et 6% d'éleveurs en Grand Est tous les ans, depuis les 5 dernières années. On perd les éleveurs, on perd aussi les bêtes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une décapitalisation de l'élevage en Grand Est. Et donc le problème, c'est que malgré tout, on consomme autant qu'avant. Et donc en fait, on importe finalement de la viande, du lait, qui est réalisé dans des conditions environnementales et sociales dont finalement parfois on ferme un petit peu les yeux. Donc nous, l'idée, c'est plutôt de refaire un peu une économie circulaire en région Grand Est. Et l'idée, c'est aussi de rendre une fierté à ceux qui se lancent dans l'élevage, parce que je veux dire, l'élevage, c'est quand même un métier très contraignant. Et si globalement, on ne sent pas que les pouvoirs publics, que l'action publique, que les gens sont aidés et poussés à finalement à continuer ce métier, ben, je pense que ce sera décourageant et on n'aura plus de jeunes qui souhaitent finalement s'installer en élevage.
Le dispositif Ambition Éleveur veut accompagner et guider les exploitants à tous les niveaux, le développement économique, technique, mais aussi la santé physique et mentale des agriculteurs, avec un premier niveau, un audit de 2 à 3 jours de chaque exploitation.
L'idée, c'est pas du tout d'imposer un plan qui viendrait de je ne sais où, descendant, en disant bah, il faut faire de l'élevage comme ci, comme ça. Non, c'est d'aller sur les exploitations, de comprendre finalement, d'aider finalement l'agriculteur à faire un diagnostic, là où finalement il a un peu des points de faiblesse, là où il voudrait s'améliorer. Et c'est construire avec lui un plan sur 5 ans d'amélioration. Et nous, on connaît un petit peu les rouages, on peut l'aider à aller chercher une aide à l'ADEME pour isoler un bâtiment, pour améliorer la ventilation d'un bâtiment pour le bien-être. On peut l'aider sur la gestion de l'eau, le stockage de l'eau, on peut l'aider sur l'énergie. On peut l'aider sur plein de secteurs, sur l'accès à une aide justement au conseil régional, l'État, préparer un dossier de financement. Du coup, ça rassure aussi la banque, parce que la banque voit que le jeune est soutenu en termes de subventions. Quelque part, ça fait un petit autofinancement pour un prêt. Et donc, petit à petit, on aide à moderniser l'élevage en Grand Est.
Des propos recueillis par Sébastien Suissy pour RCF. L'objectif à terme est de suivre 2000 éleveurs en Grand Est en commençant par 6 fermes vitrines lancées dans chaque département. Noël se prépare en région, Jean-Pierre. Ça s'active à Charleville-Mézières et à Reims notamment.
À Charleville-Mézières, en effet, le grand sapin a été placé hier en plein milieu de la place du Cal. Alors c'est vrai que c'est un sapin qui ne vient pas des Vosges. Alors l'économie a été de l'ordre de 10 000 euros et ce n'est pas négligeable pour la municipalité. Ce sapin a été scié au Mazur, à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Et il y aura aussi 800 petits sapins venus d'Arcy, qui lui aussi se trouve à quelques kilomètres des Mazur. Et ces 800 petits sapins seront placés dans le marché de Noël et puis dans les rues avoisinantes. Alors vous avez évoqué Reims. Eh bien, il faut savoir qu'à Reims, les chalets ont été placés cette fois dans les promenades et ce sera l'occasion bien sûr d'y penser parce que il faut faire attention au calendrier. Cette année à Reims, c'est plus tôt que d'habitude, c'est du 24 novembre au 24 décembre.
On aura certainement l'occasion de présenter ces festivités à nos auditeurs dans les prochains jours. Merci Jean-Pierre. Les ciné-conférences Altaïr reviennent à la Maison Saint-Sixte de Reims pour cette saison 2023-2024. Le 24 novembre prochain, justement, c'est le ciné-conférencier Christian Véraud qui présentera son film La Route 66, la piste du rêve américain. Le correspondant local d'Altaïr, Thierry Pénaud, commente.
Alors la route 66, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne route américaine qui reliait Chicago à Santa Monica entre les années 1926 et les années 1985. Sa longueur a beaucoup varié au gré des années, avec des remaniements de son tracé, surtout à partir de 1937, où la route 66 a cessé de desservir la ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Il faut savoir que la route 66 traverse trois fuseaux horaires et 8 États, d'Est en Ouest, entre autres, il y a l'Illinois, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Donc vous y verrez la route qui va de Chicago à Los Angeles, avec les canyons, les nombreuses plaines, les déserts. Vous verrez les motos Harley-Davidson, les voitures Cadillac, les villes fantômes. Vous verrez également du rock et de la country music. En fait, cette route 66, c'est la nostalgie d'une Amérique idéalisée.
Deux projections sont organisées le vendredi 24 novembre à 14h15 et à 18h30 concernant les modalités. Bonne surprise pour les auditeurs de RCF.
Alors, les billets peuvent se prendre sur place, comme quand on va au cinéma. Vous venez 10-15 minutes avant et vous achetez votre billet en espèces ou par chèque, comme vous voulez. Vous pouvez les réserver aussi sur Internet, sur le site cdmreims@yahoo.fr, ou également par SMS au 06 71 91 97 72. Un bonus pour les auditeurs de RCF, je dis bien pour les auditeurs de RCF, une place achetée à 9 ou 10 euros égale une place offerte sur les sujets de novembre et décembre.
Des propos recueillis dans l'émission Tourisme en Champagne, présentée par Michel Feck sur RCF Reims-Ardenne. Attention, l'entrée se fait par l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, 6 rue du Lieutenant Herdouin. À Reims. Sport, basket, le Champagne Basket a rendez-vous à Antibes pour le quart de finale retour de la Leaders Cup Pro B ce soir. Pour se qualifier pour le prochain tour, il ne faudra pas perdre par plus de 18 points d'écart. Marge acquise au match aller, coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Avant de refermer ce journal, la page météo avec notre stagiaire à la rédaction. Entre stress et excitation, c'est le moment où nous retrouvons Manon Bréval. Bonsoir Manon, pour ce premier direct, puisqu'hier la météo était enregistrée pour dire la vérité à nos auditeurs, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce mercredi ?
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Ce mercredi matin, dans toute la Champagne, le ciel sera couvert de nuages épais et grisâtres. Les températures se situeront entre 6 et 9 degrés dans l'Aube, la Marne et les Ardennes. Nous atteindrons des minimales de 6 degrés et des maximales de 13 degrés. Il fera un peu plus frais en Haute-Marne, avec des températures qui pourront descendre jusqu'à 5 degrés. Des rares averses sont à prévoir dans le nord et nord-ouest-est des Ardennes. Le ciel sera voilé avec quelques éclaircies. Les Hauts-Marnais auront de la chance pour ce mercredi après-midi. Votre joli département sera ensoleillé, mis à part le nord-est. Le mercure de vos thermomètres oscillera entre 7 et 13 degrés. Au cours de l'après-midi, la température stagnera entre 10 et 12 degrés. Le vent soufflera du matin au soir entre 15 et 30 km/h. Demain, nous célébrons les Geoffroy. De rares averses sont prévues pour ce mardi soir. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Manon, bonne soirée à toi. Tu restes avec nous jusqu'à 19h. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
18h39, Jean-Pierre toujours avec nous et on va prendre la direction du collectif Cité en Champagne. Vous allez comprendre puisque du 17 novembre au 3 décembre, le Festival des Solidarités se tiendra partout en France et dans 12 pays d'Afrique francophone. Pour sa 26e édition, le réseau Festisol a choisi de creuser plus particulièrement les enjeux liés à la souveraineté alimentaire et sur le maintien de la biodiversité. Zoom sur cette manifestation avec Martine Coutier, présidente du collectif collectif Cité en Champagne, au micro de Christopher.
Bonjour Martine Coutièche.
Bonjour Christopher.
Un collectif qui fait partie du réseau FestiSol et donc participe au prochain Festival des Solidarités, un rendez-vous annuel incontournable, on peut dire, Martine, pour à la fois défendre les droits humains, mais aussi promouvoir la solidarité.
Oui, effectivement, le collectif qui existe depuis une dizaine d'années maintenant a toujours eu à cœur d'essayer de solidariser toutes les associations de solidarité initialement internationales qui existaient dans la communauté d'agglomération de Châlons et qui, depuis que la Semaine des Solidarités Internationales s'est transformée en un festisol, c'est-à-dire Semaine des Solidarités, il y a 4 ans ou 5 ans, eh bien, a ensuite inséré dans son sein toutes les associations de solidarité locale, telles que Abby 51, la cantine du 111, Unicité, etc. Donc, on voit que notre démarche a été une démarche d'ouverture sur l'ensemble des solidarités. Et c'est vrai que notre objectif majeur, c'est de sensibiliser, on appelle cela le CSI, c'est-à-dire l'éducation citoyenne à la solidarité internationale, et de toucher en particulier les jeunes.
Alors, cette année, Martine Coutier, le Festival des Solidarités sera autour de la souveraineté alimentaire et la biodiversité, deux sujets, on peut le dire, importants et plus que sensibles.
Oui, exactement. Au niveau national, puisque le Festival des Solidarités, un phénomène national, voire international. Donc, le thème national a été choisi autour de la souveraineté alimentaire. Localement, on a souhaité y rajouter la question du maintien de la biodiversité. C'est-à-dire que tous les ans, on essaie de se choisir un thème autour des 17 ODD du développement durable. Et en l'occurrence, cette année, donc, on a choisi de travailler autour de l'ODD 15, qui est l'ODD sur le maintien de la biodiversité au niveau mondial.
Qu'est-ce que le Festival des Solidarités apporte concrètement au grand public, Martine Coutier ?
Alors, notre objectif, c'est essentiellement un objectif de plaidoyer. C'est un objectif qui permet une sensibilisation. Plus nous arriverons à toucher de personnes, plus nous arriverons à inciter les personnes à ensuite partager les associations ou donner de leur temps au niveau de la solidarité locale, plus nous aurons gagné quelque part, plus nous aurons atteint notre objectif. Bon, notre deuxième facette, et ça, moi, je suis, depuis que j'ai pris la présidence du collectif, je suis très sensible là-dessus, notre deuxième facette, c'est davantage de mobiliser les jeunes. Parce qu'ensuite, on peut très bien imaginer faire des réunions de solidarité comme celle-ci, mais faire de l'entre-soi. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est d'atteindre le grand public. C'est surtout de mobiliser les jeunes dans lesquels moi j'ai une grande confiance au niveau de cette démarche de solidarité.
Sur le plan local, le collectif Cité en Champagne qui regroupe, si je me trompe pas, près de 15 associations.
Oui, exactement. Initialement, le collectif avait été créé avec 5 associations, toutes de solidarité internationale. Et puis petit à petit, les associations de solidarité internationale de la communauté d'agglomération de Châlons sont venues se greffer parce que c'est vrai, et ça on le dit toujours, mais plus on est nombreux et plus on est fort. Donc nous sommes arrivés maintenant avec les associations de solidarité locale à 14 associations, et je ne doute pas que nous puissions de nouveau nous enrichir d'autres associations encore.
Merci Martine Coutier d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, présidente du collectif Cité en Champagne, de nous avoir présenté ce 26e Festival des Solidarités qui se tiendra du 17 novembre au 3 décembre partout en France et donc dans 12 pays d'Afrique francophone, avec un programme très riche avec le collectif Cité en Champagne qui se tiendra notamment du 17 au 19 novembre à l'abbaye de Vinay, mais aussi avec d'autres rendez-vous durant cette période de ce Festival des Solidarités. Merci beaucoup Martine Coutier.
Merci, à très bientôt.
Et merci aussi à vous Christopher. À savoir que sur RCF Cœur de Champagne notamment, vous en parlerez davantage dans le magazine Solidarité la semaine prochaine donc.
Le 18-19 sur RCF.
Et on continue cette émission avec Jean-Pierre qui a pu prendre sa respiration. Un nouvel invité en studio.
Avec nous aujourd'hui Jacques Yves, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous venez de publier un roman qui a pour titre Que lentement passent les heures. Alors c'est un vers d'un poème d'Apollinaire ?
Oui, oui, c'est un poème d'Apollinaire, enfin c'est le début, qu'il a écrit à la suite de son incarcération à la Santé. Il faut savoir qu'Apollinaire a passé 8 jours à la Santé, dans la prison, parce que on a pensé qu'il pouvait être mêlé à la disparition de la Joconde. La Joconde avait disparu pendant plusieurs mois, avait été volée au Louvre. Voilà, et Apollinaire, qui avait des fréquentations parfois un peu douteuses, s'est retrouvé dans cette triste situation.
Aventure. Que lentement passent les heures. Est-ce qu'il s'agit d'une autobiographie, Jacques Ivès?
Non. Je dis non en hésitant un tout petit peu, parce que oui, on va y trouver quelques éléments d'autobiographie. Bon, il est question d'un libraire dans ce livre. Même si c'est un libraire qui a cette faculté un peu particulière tout de même de voyager dans le passé, ce que je n'ai pas, hein, c'est tout de même un libraire. Donc effectivement, on va y trouver tout simplement, par exemple, mes premiers pas en librairie, mon premier jour en librairie, pour moi c'était en 1978, ça commence à faire long, c'était chez Michou. Je ne cite pas le nom de la librairie dans le livre, mais on pourra la reconnaître.
Et donc, on redécouvre beaucoup de vous-même, parce que l'auteur met beaucoup de soi-même, mais de sa vie personnelle. On a quelques petits éléments qui permettent de vous retrouver, quand vous évoquiez le quartier du Chemin Vert, la caserne Jeanne d'Arc, les chars dans l'avenue de l'Isère. Bien, c'est vrai qu'il y a des petits éléments, mais l'essentiel du livre, c'est parce que vous voyagez dans le passé et dans l'histoire, mais que vous pouvez... nous faire découvrir Blaise Cendrars, de faire découvrir Apollinaire, on l'a vu, et puis peut-être aussi Jean Jaurès avec ce qui lui est arrivé en 1914.
Voilà, c'est un prétexte pour aller rencontrer les auteurs et les artistes de l'époque, des années 1910 à 1914, et je ne m'en suis pas privé, et donc je fais plusieurs voyages dans le temps. En fait, le thème, c'est « Je suis libraire ». J'ai ma librairie, ce qui n'a jamais été mon cas, là, justement, mais je suis libraire, j'ai ma librairie, mais ma librairie ne va pas forcément très bien, et mon idée, puisque je suis capable d'aller voyager dans le temps, c'est d'aller à la source, chercher sur le terrain, dans les librairies, les livres dont je sais que, 100 ans plus tard, ils vaudront une fortune, des éditions originales, et je pense notamment... à la prose du Transsibérien, qui est un livre extraordinaire, peut-on appeler ça un livre? C'est un poème très long, magnifique, de Blaise Cendrars, qui a été présenté sous forme d'un dépliant de 2 mètres de long dans un coffret peint par Sonia Delaunay, dont il a été tiré 30 d'exemplaires et qui aujourd'hui coûte 250-300 000 €. Voyez.
Ça veut dire aussi que dans le roman, il n'y a pas Jacques Ivès 2023 qui raconterait sa vie, mais il y a l'âme d'un libraire qui redécouvre l'histoire, qui nous l'a fait partager, et un libraire qui a toujours eu, de toute façon, et ça c'est vous aussi, l'amour des livres, car vous avez toujours aimé les livres.
Oui, c'est vrai, depuis toujours, oui, oui. Je ne suis pourtant pas forcément un lecteur compulsif. Hein. J'avais des centaines de clients qui lisaient bien plus que moi. Mais oui, je lis et je fréquente les librairies de Bordeaux. En plus, j'ai la chance à Bordeaux d'avoir une des plus grandes librairies de France, la librairie Mola, et qui est c'est une caserne d'Ali Baba, quoi.
Et vous avez été dans cette caserne d'Ali Baba, chez à la librairie Guerlain. Il faut rappeler aussi que le libraire, c'est quelqu'un qui est un confident aussi pour ses clients fidèles et qui vont lui parler des lectures, lui demander des choix, lui demander vraiment que choisir dans le livre, etc. Ça aussi, c'est important et c'est ce qui manque peut-être un peu aujourd'hui.
Je ne sais pas. Alors moi, oui, je peux quand même en parler dans la mesure où lorsque j'ai pris ma retraite, hein, puisque j'ai pris ma retraite et j'ai continué de lire, j'ai continué de fréquenter les librairies, mais je me suis rendu compte très vite que, surtout dans une grande librairie comme Mola à Bordeaux, on y était perdu. On n'avait pas de point de repère, alors que j'ai toujours été très à l'aise dans la librairie, connaissant tous les livres, tous les rayons. Et là, je me suis mis à la place des clients, effectivement, je devenais client. Et c'est une drôle d'impression que lorsqu'on a été libraire pendant 40 ans, d'entrer dans une librairie et de ne rien connaître des livres qui sont sur les tables.
Et vous avez toujours eu, mais vous avez eu, alors là c'est peut-être votre parcours personnel, un passé comme professeur des écoles, comme instituteur en formation de base, où vous avez appris le français, l'orthographe, le bien lire, le bien écrire, et ça c'est une formation de base. Mais pour vous, entrer chez Michaud, vous en parlez, entrer dans la première fois dans une librairie où vous étiez entre guillemets libraire, ça a été pour vous un coup de cœur et un choc.
Ah, c'était mon objectif, c'était mon rêve, être libraire. J'ai cherché pendant des mois et des mois autour de Reims, à Paris et même au-delà, un poste de libraire, d'apprenti, et que je ne trouvais pas. Et lorsque j'ai eu la chance, effectivement, de me voir proposer un poste chez Michaud, j'ai sauté de joie. Et effectivement, je suis entré pour le premier jour dans la librairie et je me suis dit, voilà, je suis libraire. Bon,
vous
ça n'a pas duré longtemps.
Vous étiez fier d'être libraire. Fier, hein?
Oui. J'ai toujours aimé ce métier. C'est pas un métier facile, loin de là. Ça n'a pas été non plus. C'est une carrière, hein, avec des hauts, des bas et des rencontres extraordinaires, comme avec Daniel et Anne-Marie Guerlain et d'autres rencontres beaucoup moins extraordinaires. Mais non, c'est un métier que j'ai adoré du début à la fin.
Voilà. Eh bien, merci Jacques Yves d'être venu nous présenter votre carrière de libraire. Et puis, on vous retrouvera donc très prochainement. Vous avez été au micro de Jean-Pierre Benoît à l'occasion de ce livre dont vous êtes l'auteur, Que lentement passent les heures, 18h52. On est toujours dans le magazine régional sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Des rendez-vous dont certains qui s'ouvrent aujourd'hui le 7 novembre et ça va durer jusqu'au 1er décembre. Bord de Seine de Vitry-le-François et les Trois Seines de Saint-Dizier accueillent une programmation rock pour la 17e édition du festival Eclectic Rock. Des concerts grand public, des spectacles destinés aux plus jeunes, des conférences musicales qui se dérouleront dans les salles culturelles mais aussi dans des librairies ou des bars Bragard et Vitria. Zoom sur cette nouvelle édition avec Elsa Elringer, chargée de communication à Bord de Seine de Vitry-le-François. François, c'est avec Gérald Gaillet.
Elsa Elringer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chargée de communication de Bord de Seine à Vitry-le-François. Aujourd'hui, eh bien, vous allez nous présenter une partie du programme de la 17e édition du festival Eclectic Rock qui se déroule en partie à Vitry-le-François, en partie à Saint-Dizier avec les Trois Seines. Le festival Eclectic Rock, en fait, qu'est-ce qu'il a derrière ce nom ?
Eclectic Rock, comme son nom l'indique très simplement, en fait, c'est du rock, mais de manière très très large. Donc, on y retrouve même une soirée techno. Donc, c'est vraiment un temps fort sur tout le mois de novembre. Et en fait, c'est pensé donc entre Bord de Seine et les Trois Seines. C'est l'idée qu'il y ait une programmation commune sur tout le mois de novembre, où en fait, on pense les dates et on fait en sorte qu'il y ait un ensemble qui soit proposé sur tout le territoire. Donc c'est vraiment des propositions communes. Par exemple, avec le Peace and Love et le parcours dans les bars, ça va être des choses qui vont être proposées à la fois sur Saint-Dizier et sur Vitry-François. Mais en même temps, ça va être, il y a une certaine autonomie dans la programmation et on profite de la complémentarité qu'il y a entre ces différentes scènes, parce que les Fuseaux, c'est une grande scène qui est assez amovible, mais en même temps, ils ne peuvent pas avoir la proximité qui peut être présente grâce à la disposition qu'on retrouve à l'Orange Bleu, où c'est plus des concerts un peu club, avec notre bar qui est aussi très, très à proximité. L'idée, c'est vraiment de profiter du fait qu'on ait le même bassin de population et de permettre une circulation des publics entre les propositions qui sont possibles à Saint-Dizier et celles qui vont être possibles à l'Orange Bleu, et de faire en sorte que voilà, on puisse profiter du fait qu'on ait deux structures qui sont complémentaires, mais on propose quelque chose de commun, et permettre voilà, une proximité avec le public, notamment avec le parcours dans les bars, par exemple, où là, on va vraiment vers les gens, et de permettre au public de circuler entre ces deux propositions culturelles qui sont sur le même territoire, même si ce n'est pas le même département.
Alors, il y a également un programme pour les plus petits.
Oui, alors du coup, c'est plutôt la proposition qui va être sur les fuseaux, avec le mardi 7 novembre, Tout Ouiglala, qui est un spectacle pour les jeunes publics, et on peut même amener son bébé. Enfin voilà, c'est vraiment une bulle qui permet de prendre le temps avec son enfant et de profiter d'un spectacle ensemble.
Elsa, ça démarre donc le 7 novembre.
Oui, alors ça démarre le 7 novembre avec un premier spectacle qui est consacré au jeune public, donc il sera au fuseau, il est déjà complet, mais ça s'enchaîne assez vite avec le jeudi 9 novembre où nous on proposera un apéro mix, donc rendez-vous mensuel habituel pour les vitrias. Ensuite, on va continuer sur le vendredi 10 novembre à 21h à l'Orange Bleu avec une soirée boost. Donc les soirées boost, c'est quelque chose qu'on a créé et qui est nouveau sur cette saison. Donc c'est des soirées où on va découvrir des groupes émergents du souvent de la région. Donc là, c'est des groupes de la région Grand Est avec L'Aventure et Pales. Voilà, c'est vraiment une soirée où on prend du temps pour découvrir la musique, des groupes et du bon temps aussi autour du bar. Ensuite, nous, sur nos propositions, on retrouve le jeudi 16 novembre Peace and Love. Donc ça, c'est aussi un rendez-vous habituel sur le Eclectic Rock, puisqu'ils reviennent tous les ans, et en fait c'est un spectacle qui marche vraiment bien auprès des jeunes parce que ils sensibilisent aux risques auditifs, pardon, et c'est quelque chose qui est fait de manière très ludique et ça marche bien au niveau du spectacle. Et on enchaîne ensuite avec le vendredi 17 novembre à partir de 18h, le parcours dans les bars. Donc ça aussi, c'est un rendez-vous qui revient tous les ans lors du festival Eclectic Rock. Donc là, c'est un parcours, on va de bar en bar, on découvre des esthétiques différentes. Donc toutes les heures, ça commence à 18h à la CDI avec Lucy Joy, qui c'est de la chanson. Et ça finira avec le patio à 22h15 avec Bertrand puis Ségur. Donc là, c'est chanson pop rock. Le parcours dans les bars, c'est aussi une proposition qui se retrouvera le lendemain à Saint-Dizier, donc dans les bars de Saint-Dizier, avec d'autres groupes qui ont été sélectionnés communément avec Saint-Dizier et les Trois Seines. Et ensuite, pour Vitry-le-François, on retrouve le 18 novembre les Fatal Picard. Donc ça, un concert qui est très attendu ici, avec en première partie Julien Maddy, qui est aussi musicien de la région. Donc voilà, les Fatal Picard, on a besoin de les présenter. Ça va être une soirée où vraiment on est censé s'amuser, profiter et bien rigoler aussi avec les textes des Fatal Picard, un peu décalés et déjantés. On continue ensuite avec un rendez-vous qui s'inscrit aussi tous les ans dans le festival Eclectic Rock le vendredi 24 novembre. Donc là, c'est de 22h à 4h du mat, c'est la soirée techno Orange Mécanique, avec également des musiciens de la région, locaux ou de Saint-Dizier, de Chalon ou de Vitry, et un peu plus connu qui s'appelle Le Bard, qui vient de la Bretagne. Et ensuite, en clôture, nous retrouverons le concert de Mademoiselle K, donc une soirée rock qui avec Fournaise en première partie à partir de 21h.
Est-ce qu'il faut réserver ou est-ce que l'on vient naturellement?
Alors, on vous conseille de réserver parce qu'il y a une majoration sur les prix des tickets qui se fait sur place. Donc, pour réserver, vous pouvez appeler directement le 03 26 41 00 10 ou en passant directement sur notre billetterie en ligne. Donc, c'est www.bordeleschiffrescene.fr où vous retrouverez tous les détails pour prendre votre ticket directement en ligne.
Alors, vous parlez beaucoup de bars ici à l'Orange Bleu. Je suppose que aux Trois Seines, au Fuseau, à Saint-Dizier, c'est pareil, mais vous vendez que des produits non alcoolisés?
Non, il y a aussi des champagnes, de la bière. On essaie de travailler aussi, ça c'est une nouveauté, avec des produits locaux. Donc il y a des bières de la brasserie du Der, par exemple, le champagne Bâti qui est proche d'ici aussi. C'est notre partenaire d'ailleurs. Enfin voilà, on retrouve un bar vraiment assez convivial du coup.
Mademoiselle Cass, c'est une demoiselle qui est archi connue. On va la retrouver également sur un autre festival.
Oui, en fait, la date du 1er décembre, c'est à la fois une date qui s'inscrit dans la programmation d'Eclectic Rock, mais aussi dans la programmation du Charabia Festival, qui est un festival à Reims.
Elsa, merci. Et puis, bon courage, parce que là, ça va être des soirées à rallonge pour vous.
Oui, merci.
Et la soirée, elle continue tout de suite sur RCF dans quelques instants, l'information nationale. Merci pour votre fidélité. Merci, Manon, d'être restée avec nous.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Eh bien, à demain, 18h10 pour un nouveau magazine régional. Tout de suite, l'information nationale. Bonne soirée.